pour vous, avec vous, Radio Occitanie vous accompagne 24 heures sur 24.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons le jeudi de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Colette Berthès. Bonjour Colette.
Bonjour à tous.
Avec qui nous allons parler de son conte oriental intitulé « Le rossignol chante la nuit », un conte édité aux éditions Thierry Magnier. Mais on va d'abord parler un petit peu de Colette, hein, elle-même, hein, l'écrivain, l'auteur, la femme engagée, on va le voir avec elle. Alors Colette, vous êtes originaire du Bacquercy ?
De cette fond, dans le Tarn-et-Garonne.
Voilà, donc pas très loin. Hein,
pas très loin.
De la région, on va dire. Hein, voilà. Vous avez fait des études de langue orientale.
Oui, je suis partie à 18 ans à Paris pour étudier l'arabe et le russe. Et j'ai surtout continué l'arabe et le polynésien aussi d'ailleurs. Et l'anglais en même temps, parce que je voulais être à l'époque grand reporter et vivre au Moyen-Orient.
Ah oui, donc toute petite, vous aviez ce rêve, hein, ce projet, et vous oui. avez mené à bien finalement votre projet.
En partie.
En partie, parce que vous avez vécu, bon, vous avez fait vos études à Paris, vous avez vécu à Paris un peu, et puis ensuite vous avez voyagé pas mal, et puis vous avez vécu en Moyen-Orient,
donc,
bien sûr.
Oui, j'ai étudié en Égypte avec une bourse, et puis ensuite j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Jordanie. Et aussi, bien sûr, j'ai voyagé au Liban, en Syrie, et je vis régulièrement, je vais en Palestine très régulièrement.
Eh bien, vos parents n'étaient pas férus de langue orientale ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Ça vous c'était l'occitan, langue maternelle, et le français, langue seconde.
D'accord. Voilà. Donc, ça, à l'école, peut-être, ça vous est
je ne sais
comme
pas,
ça,
je crois c'est... que dans mes souvenirs, j'ai lu un roman vers l'âge de 11-12 ans qui se passait dans le désert, entre deux tribus de nomades, un petit garçon et une petite fille. Et je crois que c'est parti de là.
Ah oui, c'est souvent hein, un livre hein, ou une chanson, des fois, qui détermine un peu notre avenir, finalement.
Tout à fait, je pense que c'est parti de là.
D'accord. Alors, finalement, on va le voir, ce conte, c'est un peu un hommage, on va dire, un hommage à votre vie au Moyen-Orient, à votre amour du Moyen-Orient.
Oui, de la culture du Moyen-Orient, de la culture orientale, la culture arabe, de la musique, des paysages.
Alors, vous avez fait... vous êtes revenu au pays, hein, au bout d'un moment, hein, forcément.
Depuis avec pas mal de temps.
Voilà, oui. Avec les problèmes de guerre, et etc., forcément.
On est revenu très tôt, après la guerre civile, après la guerre en Jordanie, dans les années 70. Et on était revenu pour quelques années. Et puis, finalement, nos filles étaient là et elles ont étudié en France. Elles ont vécu en France. Mes parents étaient là. Et nous ne sommes repartis que ponctuellement, du moins moi, puisque mon mari, à l'époque, n'avait pas le droit de retourner en Palestine. Mon mari est palestinien.
D'accord.
Et il n'avait pas le droit. Il n'en a eu le droit que quand il a eu un passeport français, c'est-à-dire très, très tard. Le gouvernement israélien ne le laissait pas rentrer.
Oui.
Voilà. Donc, ça a été l'exil pendant presque 30 ans.
Eh oui. Alors, vous avez exercé 1000 métiers, Colette, de la poste aux services sociaux, en passant par l'animation socio-culturelle, la formation, le travail auprès des réfugiés également, et puis même à France Télécom.
Même à France Télécom, à Blagnac, à la direction des télécoms pendant 5 ans. C'est
donc
un bon souvenir,
c'est très
d'ailleurs.
Éclectique, vos métiers. Et puis, donc, vous êtes une femme, comme je disais au début de l'émission, vous êtes une femme engagée, militante, hein, puisque vous êtes dans une association qui s'appelle Lutte pour la justice et qui se bat pour l'abolition de la peine de mort aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Depuis maintenant, l'association existe depuis 12 ans, 13 ans. Et sinon, j'ai connu ce milieu-là et les gens du couloir de la mort en 96 par ma fille qui correspondait avec un jeune condamné à mort du Texas.
D'accord.
Et nous avons continué, nous sommes 200 à peu près, sur toute la France, qui continuons à soutenir des condamnés à mort et essayer de financer des contre-enquêtes ou des avocats compétents
pour qu'ils échappent
à la peine capitale.
Et vous vous êtes rendu aussi là-bas ?
Plusieurs fois. Je m'y suis rendue, en particulier quand j'ai écrit le livre « La machine à tuer ». Et ensuite, quand j'ai participé à des documentaires sur la peine de mort au Texas, sur des films, voilà, j'y suis allée plusieurs fois.
Oui, c'est terrible, effectivement, quand on les voit là dans les couloirs, le couloir de la mort, qui attendent pendant des années. Hein,
15 ans, 10 ans, 20 ans.
C'est vrai que c'est assez inhumain.
Ça évolue aux États-Unis, tout doucement, mais ça évolue.
Et vous êtes aussi, tant mieux si ça évolue, si votre action peut permettre d'améliorer un petit peu la situation.
Je dirais que c'est aussi l'action beaucoup des abolitionnistes américains et
oui,
de
aussi,
l'association. Nous ne faisons que
aussi,
les soutenir ou les aider, il ne faut pas non plus rêver. Hein.
Oui, non mais bon, c'est... tout ce qu'on peut faire, c'est toujours mieux que rien, moi, je pense. Vous avez aussi créé un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Montclar de Quercy, Quercy.
Oui, dans les années 93-94, avec des amis, nous avons ouvert un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que nous avons...
Qui venaient de où, ces demandeurs d'asile de
tous les pays du monde.
Tous les pays du monde, voilà, d'accord.
Qui continuent à fonctionner, mais que nous avons laissé à une autre association il y a à peu près 10 ans, parce que moi, j'en étais présidente, mais nous avions tous d'autres occupations, d'autres choses à faire. Et puis, au bout d'un moment, je pense qu'il est bien que d'autres personnes prennent le relais. Quand on a créé quelque chose, j'aime bien créer des choses nouvelles, j'aime bien ensuite les laisser à d'autres pour repartir
pour
sur des choses nouvelles.
Oui, que ça rebondisse avec de nouvelles têtes, de nouvelles
tout
idées.
Tout à fait.
Oui, parce que vous faites aussi partie donc, de l'association France-Palestine.
Oui, France-Palestine Solidarité, qui est dans tous les départements, mais en particulier en Tarn-et-Garonne. Et par exemple, ce vendredi, nous avons une soirée témoignage, puisqu'un groupe de 14 personnes est allé pendant 10 jours dans les territoires palestiniens au mois de mars-avril. Et donc, vendredi, ils vont rapporter au public ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu pendant cette semaine.
Et ça se passe où ?
Ça se passe à Montauban,
près
de l'ancien collège, à la salle Saint-Joseph. Et c'est gratuit, bien sûr. Et c'est vendredi à 20h30.
Ben voilà, donc demain.
Demain, exactement.
20h30. Oui, oui. Donc voilà, n'hésitez pas.
S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent descendre à Montauban, ce n'est pas très loin de Toulouse.
Tout à fait. Et puis donc, vous écrivez bien sûr des articles, vous participez à des conférences sur le Moyen-Orient.
La peine de mort aussi, beaucoup.
Et sur la peine de mort aussi. Mmh. Et puis, vous écrivez des livres, voilà, on en vient
au sujet,
voilà. Alors déjà des livres, un premier livre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, « La machine à tuer ». C'était aux éditions Les Arènes, c'était en 2000. C'était un récit donc, qui parle justement de la peine de mort.
Et du combat que nous avons mené pour essayer de faire reconnaître l'innocence d'un jeune noir texan condamné à mort.
Celui avec qui correspondait votre
fille. Ma fille, oui.
Et
qui a été exécuté sous George Bush le 1er mars 2000.
Bon, d'accord, donc ça n'a pas...
Non. Ça ne marche pas souvent aux États-Unis.
Oui. Ensuite, il y a eu « La mémoire des chemins », alors aux éditions De Boré, en 2008. Alors là, c'était un roman, mais qui se base sur des faits réels.
C'est la vie romancée de mon grand-père, qui était compagnon du devoir de liberté.
Voilà.
Donc, j'ai parlé de l'enfance dans le Quercy des années 1900, de la Grande Guerre, et puis du compagnonnage du devoir de liberté, qui est peu connu, puisqu'il s'est fondu avec le compagnonnage du devoir en 1945, mais qui est très intéressant.
Oui, donc c'était votre premier roman, on va dire, un roman... De votre région.
Tout à fait.
Ensuite, il y a L'exil et les barbelés aux éditions Rive-Neuve.
Oui, qui est une édition indépendante parisienne.
D'accord. Alors, c'était en 2011, l'année dernière, en même temps que le conte, d'ailleurs, on va le voir. Et puis, donc là, c'est plutôt un essai.
Oui, c'est un essai.
Il y a des photos, il y a pas mal de choses.
C'est l'histoire, par ceux qui l'ont vécu, du camp d'internement de Sept-Fonds, qui a ouvert en 1939 pour enfermer 16 000 républicains espagnols.
D'accord.
Et qui a fermé en 1945 avec les derniers prisonniers collabos, comme on disait à l'époque, dans un camp qui a fonctionné pendant 6 ans dans un coin du Tarn-et-Garonne, qui est mon village, qui est Sept-Fonds.
D'accord. Voilà. Ah oui, donc vous aviez envie de faire connaître un peu
l'histoire de Sept-Fonds, puisque dans le premier roman, La mémoire des chemins, on parle beaucoup de Sept-Fonds aussi et du Tarn-et-Garonne.
Donc voilà, l'exil et les barbelés. Et puis alors donc là, aujourd'hui, nous allons parler de votre premier titre en jeunesse. Oui. Hein. C'est un conte oriental, Le Rossignol chante la nuit, aux éditions Thierry Magnier. Donc vous l'avez écrit aussi en 2011.
Alors c'est un conte jeunesse, mais comme tout conte oriental, c'est aussi un conte adulte.
Ah oui, tout à fait. Moi, je me suis régalée à le lire. Et ma fille qui a 10 ans l'a beaucoup aimé aussi. Comme
entre
quoi,
8
âges,
ans et 90 ans, on aime ce conte, les histoires orientales. Les mille et une nuits sont lues par tout le monde, donc c'est pareil.
Oui, bah oui, voilà. Là-bas, les contes, c'est
pour
toute
la
l'oralité, voilà, de raconter des histoires, c'est tout à fait partie intégrante.
Il n'y a pas vraiment de conte enfant. Enfin, il y a des histoires pour enfants, mais il n'y a pas de conte enfant et de conte adulte.
Non, parce qu'il y a une morale en plus qui se retire de chaque conte. Hein. Donc là, il y en a une aussi, on va la voir. Et donc, effectivement, c'est pour les enfants, mais les adultes aussi, pour pas qu'on oublie certaines choses.
Certaines choses importantes
tout
dans
à
la
fait.
Vie.
Alors, Le Rossignol chante la nuit, donc aux éditions Thierry Magnier. Alors, le texte est de vous, Colette Berthès. Et puis, il est magnifiquement illustré par Rachid Koraïchi.
Oui, qui est un grand plasticien, artiste franco-algérien, français-algérien,
franco-algérien,
qui a beaucoup travaillé sur la poésie de Mahmoud Darwish en particulier, qui a travaillé aussi sur les moines de Tibéride, qui a travaillé sur la poésie arabe. Alors, bon, il travaille, il sculpte, il peint. Il fait des gravures, il fait des tissus originaux. Enfin, il est polyvalent.
C'est aussi au graphisme, hein, parce que c'est très graphique, hein, finalement,
c'est très
ces graphique
dessins. Et
à l'encre bleue, en plus, ce bleu, il est magnifique, ce bleu.
C'est très, très graphique et en même temps, c'est plein de symboles. Rachid fait partie d'une grande famille soufie. Et donc, on retrouve beaucoup de symbolisme
dans
ses dessins.
Et moi, je trouve que vraiment, ces dessins sont totalement, collent parfaitement au texte.
Oui, mais même les enfants s'y retrouvent.
Oui, parce que c'est plein de dessins, c'est très bien, c'est fin.
Et on peut imaginer ce qu'on veut, puisque la particularité de Rachid, c'est de ne pas faire de portrait d'homme ou de femme.
Ah oui, il n'y a aucun portrait des personnages
personnage.
Cités hein, dans le conte, c'est vrai. Il y a les chameaux, il y a
animaux,
plein de choses,
il y a des éléments
animaux,
personnes, mais il n'y a pas de personnages, puisqu'en islam, traditionnellement, on ne représente pas, en islam sunnite, on ne représente pas les personnes.
D'accord. Alors donc ce conte, c'est un hommage au Moyen-Orient, enfin à votre...
À mes nombreux voyages.
À vos nombreux voyages, puis à votre goût donc pour l'Orient, les langues orientales.
Oui, que j'aime beaucoup. Ce sont des endroits que j'aime beaucoup et je me voyais mal écrire un roman parce qu'il y a des romans arabes qui sont fabuleux. Je me voyais mal écrire un essai politique ou économique parce qu'il y a des gens qui savent les écrire et des journalistes, c'est pas mon domaine. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'était un conte.
Et moi, je trouve que c'est très bien parce qu'un conte, comme vous le dites, c'est pas que pour les enfants, les grands aussi trouvent plaisir à lire ce conte. D'ailleurs, je vais de suite lire la quatrième de couverture pour donner une idée à nos auditeurs. Et puis après, on en parle un petit peu plus en détail. Il était une fois, dans ce lointain pays d'Orient, un vieux prince qui désirait par-dessus tout marier son fils Nazim, qui lui n'y tenait guère. Pourtant, une femme, la plus belle, la plus intelligente et la plus douce qui soit, conquit un jour son cœur. Contre une promesse, elle l'épousa.
Voilà, c'est contre une promesse qui est important.
Oui. Alors donc c'est un conte qui commence vraiment, enfin comme un vrai conte. Hein, il était une fois. Hein,
tout
c'est,
à fait, bien
voilà.
sûr.
Ah oui. Et puis ça se passe quand ? Alors c'est une histoire qui se passe. J'ai bien aimé la phrase. Une histoire qui se passe au temps où les hommes et les fées se partageaient le monde. Je cite. J'ai trouvé la phrase jolie.
Oui, parce
et
que
puis
je
pleine
pense
de symboles là aussi.
Voilà, il fut un temps où l'imagination des hommes était assez fertile et assez large d'idées pour penser qu'il pouvait y avoir des mondes à côté d'eux et que la nature ou que les animaux pouvaient aussi avoir, entre guillemets, une âme et une vie propre.
Tout à fait. Donc c'était dans ce temps-là. Voilà, le conte se situe dans ce temps-là. Alors où c'est le lieu, évidemment, c'est les immenses déserts, hein, ocre, les oasis, les palmiers, les gazelles. Hein, ça se passe dans un pays.
Oui. Alors ça m'a vraiment été inspirée parce que j'ai vu en Jordanie ou en Syrie, en particulier à Palmyre. Quand on arrive à Palmyre en Syrie, à côté des ruines antiques, il y a une immense oasis qui est cernée de désert. Et c'est vrai que la première première fois où j'y étais allée, ça m'avait complètement frappée.
Ah oui, ouais,
ces couleurs et cette verdure et cette eau, et puis tout autour, le désert complet.
Et oui, puis cette couleur ocre, c'est particulier. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, donc ça se situe dans cet endroit-là. Le conte se situe à cet endroit. Alors les personnages, eh bien, il y a le vieux prince du royaume, hein, qui est bon, juste et ouvert. C'est 11 filles, bon, dont on ne parle pas trop dans le conte, mais enfin 11 filles, c'est quand même pas mal. Et puis son fils unique, Nazim, qui lui est assez oisif, pas très responsable des...
Non, c'est un éternel ado et c'est le plus jeune.
Il fait la fête avec ses amis.
Comme beaucoup d'ailleurs de garçons de pays arabes, par la maman, par les sœurs, surtout si c'est le dernier. Il a le droit de tout faire, il a le droit de traîner et il traîne.
Et voilà. Beaucoup. Et donc le vieux prince, lui, voudrait bien qu'il prenne un peu la relève et puis qu'il se marie. Et alors il y a une très jolie question. Il en parle donc à son premier ministre, le vieux prince, qui lui pose une question. J'ai beaucoup aimé. Je vais la lire parce que vraiment elle me plaît beaucoup. C'est: qu'est-ce qui peut rendre fou l'homme le plus sage et sage l'homme le plus fou? Parce que comme le prince ne sait pas du tout comment faire pour amener Nazim, son fils,
à s'assagir,
alors il pose la question au Premier ministre qui lui pose une question au vieux prince. Et donc forcément, on l'a tous deviné, c'est la femme, bien sûr.
C'est la femme, bien sûr.
Et alors, un tas de prétendantes vont venir.
Elles veulent bien se marier avec un prince d'un aussi beau royaume, mais vont toutes essayer de prendre rang, mais malheureusement,
sans succès.
Il n'en veut aucune.
Il n'en veut, pas assez belle, pas assez intelligente. Enfin, il leur trouve un défaut qui ne va pas. Enfin, surtout, il n'a pas très envie.
Il n'a pas envie.
Alors, son père va finalement voir l'ermite qui lit l'avenir dans un lieu sacré, dans le désert. Donc, il part pour plusieurs jours voir cet ermite. Et au retour, après l'avoir vu, cet ermite, au retour pour revenir dans son palais, il est pris dans une tempête de sable, une terrible tempête de sable.
Ce qui arrive très, très souvent dans le désert.
Voilà,
soudaine, violente. Le souffle, voilà.
Et donc, ça l'oblige à s'arrêter pour la nuit. Et là, il va faire une rencontre assez extraordinaire. Oui. C'est là où la magie rentre dans ce conte. Il va sauver et délivrer une petite grenouille verte, pas plus grosse qu'une date.
Oui.
Et qui, en fait, n'est autre...
Et la reine des fées.
Et c'est la reine des fées, en fait, cette grenouille verte. Oui.
Qu'un méchant génie, puisque un djinn, il y en a des gentils,
les djinns,
il y en a des méchants. Et les djinns existent, puisque dans le Coran, ils sont authentifiés. Donc, des djinns existent. Ce sont des esprits. Et certains ne sont pas très sympas.
Ils sont farceurs, qui sont un peu...
Celui-là, il veut épouser la reine des fées.
Ah, voilà.
Qui doit être très belle. Et comme elle ne veut pas, il l'a transformée en grenouille.
En grenouille.
Il l'oblige à rester enfermée dans une grotte tant qu'elle n'accepte pas de se marier avec lui.
Voilà. Et donc, le vieux prince va délivrer la reine des fées. Et donc, pour le remercier, elle va l'aider dans son entreprise, dans son désir de marier son fils.
Voilà.
Et effectivement, Nazim va rencontrer une femme.
Très belle.
Très belle, belle comme le soleil.
Très intelligente.
Plus belle même, plus belle que le soleil.
Plus belle que le soleil.
Qui s'appelle Nour et qui accepte de l'épouser à une condition.
Oui.
Voilà, la fameuse condition.
Cette fameuse condition, c'est de ne lui faire confiance et de ne jamais lui poser de questions sur son passé.
D'accord.
Parce qu'il la rencontre tout à fait par hasard en train de se baigner dans un lac. Il ne sait pas d'où elle vient et elle ne le lui dit pas.
Voilà.
Et elle lui demande de ne jamais lui poser de questions sur son passé et de lui faire confiance.
Et il accepte. Et donc, il se marie. Les noces durent 3 jours. Et puis, les années passent dans le bonheur. Ils ont des enfants. Tout se passe bien.
Tout se passe bien.
Jusqu'à la mort du vieux prince, qui meurt dans son jardin. Et donc, Nazim a beaucoup de mal à s'en remettre.
Bien sûr.
En perd le sommeil. Et donc, il passe ses nuits à déambuler dans le jardin.
Bien sûr. Il était très attaché à son père. Et c'est vrai qu'il en... cet attachement fait qu'il ne se remet pas de la mort de son père. Peut-être aussi parce qu'il pense que maintenant, c'est lui qui est responsable
et
de tout.
Aussi.
Qui doit tout assumer. Et donc, une nuit, il voit une ombre qui se glisse hors du palais de sa femme.
Et donc, bon, voilà. Il en déduit que
et
c'est
là,
elle.
Et la jalousie.
Et oui, il commence à la soupçonner d'avoir un amant. Donc, il décide de la suivre une autre nuit. Hein, et ça arrive, hein, un soir de pleine lune, elle ressort du palais et il la suit. Il la suit d'ailleurs jusqu'au lieu où ils s'étaient rencontrés la première fois.
Voilà. Et là, c'est pire que tout pour un homme amoureux.
Eh bien oui, parce qu'il se dit, oui, voilà, on s'est rencontrés là, elle ose venir à cet endroit où on s'est rencontrés, et il imagine un tas de choses, et finalement, ce qu'il va découvrir, bon, on ne va pas le raconter, mais va l'étonner énormément,
oui.
Et surtout, il va se rendre compte, en même temps qu'il découvre avec étonnement ce qui se passe,
la vérité.
Il va se rendre compte qu'il a trahi la promesse qu'il avait faite à sa femme.
Comme quoi, on peut trahir une promesse sans même s'en rendre compte ou sans y faire attention.
Eh oui.
Il faut toujours faire attention à ce qu'on promet.
Et voilà, donc c'est un peu la morale, on va dire, de ce conte. Hein, quand on fait une promesse, il faut tenir sa promesse.
Et quand on fait confiance à quelqu'un, il faut lui faire confiance jusqu'au bout. Elle dit, ouais, c'est ce que je pense. C'est un peu aussi ce que pensent les Orientaux, dans la mesure où quand ils donnent une promesse orale, l'oral a beaucoup d'importance au Moyen-Orient. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait pas besoin de papier écrit.
Et oui, c'était comme ici, dans l'oralité, tout à fait.
On tapait dans la main et ce qui était juré.
Et oui. Et le titre, lors de ce conte, trouve toute sa signification, en fait, dans les dernières lignes du conte. Hein, Le rossignol chante la nuit. Donc, voilà, il faut lire le conte jusqu'au bout. Mais de toute façon, ce n'est pas très difficile parce qu'il est vraiment très agréable à lire. C'est un conte plein de magie, au parfum d'Orient, justement, qui est aussi magnifiquement illustré et qui donne à méditer sur cette morale. Hein, ne pas oublier... les promesses qu'on fait, ne pas les faire à la légère.
Oui.
C'est un beau conte.
Merci.
Et vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, de 7 ans à... Et jusqu'à temps qu'on puisse lire.
Voilà, au tout petit, on peut le raconter en changeant les mots qui sont assez difficiles et le vocabulaire et peut-être certaines choses un peu dures dedans qu'on peut atténuer. Mais je pense qu'il est lisible et comptable.
Pour les petits, mais après, à partir de 7 ans,
adapter le vocabulaire qui est vraiment un vocabulaire, je le sais, un peu difficile et choisi.
Enfin, les mots sont quand même... Moi, j'ai trouvé qu'il était simple à lire. Hein. Enfin, il n'y a pas de mots trop difficiles. Hein.
Mais ce n'est pas très grave non plus si les enfants ne comprennent pas tous les
mots.
Oui,
quelque part, ils comprennent l'idée, l'histoire voilà, c'est ça qui est important. Alors, Colette, un autre conte ou un autre livre ?
Un roman est sorti il y a un mois qui s'appelle « Les Amants de Borde Rouge » qui se passe dans le Lot du 19e siècle,
vous
entre
revenez donc
1830
dans
et 1900.
Dans votre région et donc à une période...
qui est l'histoire de deux enfants qui s'aiment tout jeunes et qui, est-ce qu'un amour d'enfance peut résister à la vie et à l'usure et au temps et à la séparation. Mais en même temps, ça parle du Lot à cette époque-là, bien sûr, qui est mon deuxième pays.
Et oui.
Et en ce moment, sinon, je commence à travailler sur un livre collectif autour d'un compagnon de Saint-Lys, qui est un monsieur extraordinaire, qui s'appelait Bouas, qui était un compagnon et un ancien maire de Saint-Lys, dont on a retrouvé, grâce aux compagnons de Toulouse, on a retrouvé le journal. Et on va essayer de le faire éditer.
Plusieurs,
on travaille sur ce personnage pour faire un livre collectif autour d'un homme extraordinaire.
Ah oui, mais c'est une riche idée, effectivement. Oui, donc vous avez plein de projets, Colette. Je m'inquiète pas
plein
pour
d'autres
vous.
Projets.
Vous êtes pleine de vie, de joie, de projets.
Plein de projets. J'espère qu'ils aboutiront.
Voilà, il n'y a pas de raison. Hein. Donc ce livre, donc peut-être Les Amants de Borde Rouge, peut-être l'occasion. D'une émission avec Christian Moreto, peut-être.
Peut-être, on ne sait jamais.
Voilà.
J'aimerais bien.
Et puis, en tout cas, moi, j'ai été ravie vraiment de vous recevoir pour Le Rossignol chante la nuit aux éditions Thierry Magnier, écrit par Colette Berthès et illustré par Rachid Koraïchi.
Oui.
Vraiment un très beau conte. Et pour nous, donc, on se retrouvera pour la dernière de Page à Page de la saison, bien sûr, pas pour toujours, mais juste pour la saison avant les vacances d'été. Ça sera le jeudi 28 juin, toujours à 10h, sur les ondes de Radio Occitanie. Je recevrai Dalia Hassan, qui nous parlera de l'édition 2012 du Marathon des mots, qui va se dérouler dans notre ville rose du 28 juin au 1er juillet. Cette année, oui, c'est un peu décalé dans le temps, et dont le thème, le pays, on va dire à l'honneur avec toute la littérature qui va avec, ça sera l'Italie. Voilà, donc un beau panorama en perspective. Ben, merci beaucoup, merci à vous, Colette Berthès, et pour ce rossignol qui chante la nuit.
Merci.
Et on se retrouve donc le 28 juin et on se quitte avec une musique eh bien, qui va nous entraîner un petit peu dans un pays, voilà, peut-être le royaume où vivait Nazim, qui sait.
Qui était un musicien, Nazim
aussi,
était un
plus,
musicien.
Aussi, en plus, oui, oui, oui. Voilà. Poète, musicien. Donc, on se quitte en musique.
Oh,